Bonsoir, entrons ensemble dans le temps du débat comme tous les soirs, du lundi au vendredi, de 18h20 à 19h sur France Culture. À l'ordre du jour ce soir, faire plus d'enfants ou ne plus faire d'enfants. La question nataliste a été récemment remise au goût du jour par certains leaders politiques qui ont estimé nécessaire de relancer une politique de la natalité en France, car notre pays s'était constamment distingué des autres puissances européennes par son taux de natalité, justement. Un taux de natalité qui baisse depuis quelques années, ainsi que le confirmait le dernier recensement de l'INSEE publié il y a une quinzaine de jours. Mais ce débat, déjà ancien, a été récemment renouvelé par deux paramètres nouveaux. D'abord, la volonté de certains et de certaines de prendre en compte l'état de la planète et les conséquences que fait peser sur elle une croissance démographique importante en imaginant ainsi, par exemple, un permis de procréer et à l'inverse, une lecture de genre de la maternité qui se demande ce que signifie de faire peser sur les seules femmes, souvent, le salut de l'espèce humaine. Nous en parlerons ce soir avec Colline Cardy, elle est maîtresse de conférences en sociologie à l'université de Paris 8, elle est chercheuse au CRESPA CSU et elle a coécrit l'article, par exemple, Le corps maternel dans l'encyclopédie du genre qui a été publié il y a quelques temps aux éditions de La Découverte. Antoine Bueno est également avec nous, il est chargé de mission au Sénat pour le développement durable et la prospective et il est auteur chez Albin Michel d'un livre qui a fait parler de lui l'année dernière, Permis de procréer. Et Gérard François Dumont est également avec nous, il est géographe, économiste et démographe, professeur à Paris 4 Sorbonne. Il est directeur de la revue Population et Avenir qui a été fondée par Alfred Sauvy, dont on entend la parole, c'était en 1974.
La natalité française est en train de s'effondrer cette année. Nous sommes au niveau de la famille de deux enfants. Peut-être même, si on ne compte que les Français, peut-être même au-dessous, à la fin de l'année. De sorte que nous avons un problème qui n'est pas un problème de nombre, comme on le croit. Nous pourrions être 20 millions ou 80 ou 100 dans l'Hexagone, ça n'a pas une grande importance. Mais un problème de répartition par âge, qu'en démographie, on ne regarde jamais les problèmes que 25 ou 30 ans après que leurs dommages ont déjà commencé.
Mais quel type de problème, par exemple ?
Eh bien, il y a des problèmes matériels et des problèmes moraux. Le vieillissement, ça entraîne des problèmes matériels, ça ne fait aucun doute. On pense tout de suite aux retraites, c'est pas le seul, mais enfin, il y en a, c'en est un. Et puis, il y a les problèmes moraux. Est-ce qu'un pays composé de vieux, avec une forte population âgée, est capable de s'adapter aux nouveautés, aux innovations qui vont certainement jaillir dans le monde pendant 50 ans ou 100, et ça c'est une certitude.
Voici donc ce que déclarait Alfred Sauvy, le célèbre économiste et démographe, au journal de 20h. C'était le 5 septembre 1974. Il évoquait les problèmes matériels et moraux, justement, de la dénatalité. Quand je dis, Gérard-François Dumont, bonsoir, que c'est une vieille question, c'est une vieille question. La peste blanche, Georges Suffert, Pierre Chaunu, tous ceux qui ont travaillé dans les années 60 et 70 et qui craignaient, justement, la dénatalité pour le beau pays qui était la France.
En fait, c'est une question beaucoup plus ancienne, puisqu'elle est déjà traité par Platon ou par Aristote il y a 25 siècles.
Voire Malthus, il y a 3 siècles.
Oui, Malthus, il y a 3 siècles, et bien avant Malthus, beaucoup d'autres auteurs. Ce qui est intéressant, c'est la date de cette interview, c'est-à-dire c'est 1974, donc c'est l'année où effectivement la fécondité de la France passe sous le seuil de remplacement des générations, c'est-à-dire en fait l'année où la France entre dans l'hiver démographique. Mais surtout, c'est à cette période en fait que la liberté de choix des femmes et des couples diminue. C'est-à-dire qu'auparavant, on a une certaine correspondance entre le nombre d'enfants que les femmes et les couples souhaitent avoir et le nombre d'enfants qu'ils ont. Et c'est à partir de 1974 qu'on sent un décrochage où, en fait, les femmes et les couples veulent plus d'enfants que ce qu'elles ont réellement, compte tenu des détériorations, notamment en matière de conciliation de vie professionnelle et vie familiale.
Alors ça, évidemment, cette catastrophe annoncée, disant que c'est 25 ou 30 ans plus tard, que l'on sent les conséquences des dommages, disait Alfred Sauvy. Et tout compte fait, on a continué à avoir une population qui croissait, on a continué à dire qu'on était les champions d'Europe de la natalité. Colline Cardy, bonsoir.
Bonsoir.
Évidemment, on n'a pas l'impression que la catastrophe annoncée par Alfred Sauvy en 1974 soit véritablement annoncée, si on se place du point de vue d'Alfred Sauvy.
Oui, tout à fait. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous citez cette date de 1974. C'est aussi en 1974 que Jean-Marie Le Pen, par exemple, c'est juste pour indiquer à quel point la question du genre est en fait est sous-jacente à ces débats. C'est aussi en 1974 que Jean-Marie Le Pen a un discours qui lie là aussi la natalité et la question des retraites, en disant il lutte contre la libéralisation de l'avortement, en disant si on légalise l'avortement, on va encore faire moins d'enfants.
C'est le débat sur la loi Simone Veil,
tout à fait. Donc on est effectivement à une date clé. Voilà.
Et puis, on peut dire, puisque vous évoquez Jean-Marie Le Pen, que Jordan Bardella, député européen et vice-président du Rassemblement National, a fait des déclarations toutes récentes, justement, liant la question de la démographie et donc du besoin d'enfants en France. Il dit « La France n'a pas besoin de dizaines de millions d'immigrés supplémentaires pour sauver son système des retraites, mais de relancer la natalité et pour relancer également l'emploi. » Voici ce qu'on dit aujourd'hui. Antoine Bueno, vous êtes avec nous, vous êtes auteur de « Permis de procréer ». On peut dire que vous vous placez... d'une façon très particulière, en contre-pied de ce qui vient d'être dit.
En contre-pied absolument total, mais en ayant un discours aussi nuancé, le vieillissement de la population, c'est un vrai problème. En tout cas, c'est une vraie question et il ne s'agit en aucun cas de le nier. Et moi, ce que je dis, c'est qu'il y a un problème encore supérieur, qui est celui de l'environnement, qui est un problème existentiel, un problème vital, qui doit passer devant tous les autres. Et si on ne règle pas ce problème, tous les problèmes sociaux, puisque la question du vieillissement de la population est un problème social, eh bien, c'est même pas la peine de se poser la question, puisqu'on sera plus là pour se la poser.
Qu'est-ce que vous voulez dire en établissant la possibilité, comme il y a un permis de conduire, d'un permis de procréer dans votre livre paru il y a peu de temps chez Alma Michel?
Alors le titre de mon livre est parfaitement marketing et provocateur parce qu'on est dans une société qui veut, qui réclame ça, c'est-à-dire qu'il n'existerait pas et puis je ne serais pas sur ce plateau si je n'avais pas publié ce livre et si je ne l'avais pas appelé permis de procréer, bien entendu. Par-delà la provocation, il y a quelque chose de beaucoup plus mesuré et de beaucoup plus sérieux. Non, je ne propose pas l'établissement d'un véritable permis de procréer, mais je constate que le nombre d'êtres humains, la démographie a un impact environnemental, un impact extrêmement important et que pourtant ce paramètre a été totalement évacué depuis les années 80 pour des bonnes et de mauvaises raisons des politiques environnementales et je propose un certain nombre de solutions qui sont compatibles avec les droits de l'homme, c'est pour ça qu'il n'a pas été facile d'écrire ce livre, de solutions donc compatibles avec les droits de l'homme pour diminuer notre nombre.
Gérard-François Dumont, j'imagine que vous êtes perpendiculaire à ce qui vient d'être dit par Antoine Bueno, puisque dans la lignée de Monsieur Sauvy, d'Alfred Sauvy, vous pensez effectivement qu'il faut augmenter la natalité, qu'il faut
non,
la développer.
Non, je pense simplement qu'il faut la liberté de choix pour les femmes et les couples. Ça me paraît tout à fait essentiel. Or, cette liberté de choix, effectivement, en France, elle a été attaquée ces dernières années à travers le rabotage d'un certain nombre de décisions.
De ce que vous appelez les politiques familiales, ce qu'on appelle
les
politiques
familiales. Oui, mais non, mais j'en prends une seule pour éclairer nos auditeurs. L'État a diminué de 13 milliards les dotations aux collectivités territoriales. Bon, par quoi ça s'est traduit? Ça s'est traduit notamment par le fait, même s'il ne crie pas sous les toits, qu'un certain nombre de maires ont repoussé des projets de crèches ou des projets de relais assistantes maternelles qu'ils avaient envisagés. Donc c'est quand même important. Alors, je suis d'accord sur un point fondamental avec Antoine Bueno. C'est-à-dire que de toute façon, il n'y a pas de secret. Si effectivement on ne fait pas de développement durable, eh bien, ça entraînera de la morbidité et de la mortalité. D'ailleurs, on le voit très bien en Chine. Le cas de la Chine est extraordinaire. Rappelez-vous que la Chine a refusé de signer le protocole de Kyoto. Et puis, elle s'est rendue compte qu'effectivement, les conditions qu'elle faisait à ses populations, dans certains territoires chinois où l'environnement est absolument pas respecté, se traduisaient par des hausses de mortalité, de mortalité infantile, mortalité maternelle. Et donc, la Chine a changé un petit peu d'avis dans ce domaine. Néanmoins, est-ce que la mauvaise qualité de l'environnement est homothétique du nombre d'habitants? Et là, la réponse, elle est non. C'est-à-dire, lorsqu'on regarde les émissions de CO2 par habitant, on voit qu'il n'y a aucune corrélation avec la densité de population des différents pays.
Alors, Antoine Bueno. Alors là, je réponds à ça parce qu'il y a une énorme confusion qui est faite sur les effets de la crise environnementale. Il y a deux effets fondamentaux pour avoir vraiment les choses bien claires à l'esprit. C'est l'effet sanitaire et l'effet global. L'effet sanitaire, c'est ce dont parlait Monsieur Dumont, qui n'est absolument pas homothétique avec le nombre d'habitants et qui est plutôt homothétique avec le degré de développement. En gros, plus on est développé, plus les effets sanitaires de la dégradation de l'environnement sont maîtrisés, en tout cas globalement. Bon, je vais vous laisser puisse ensuite répondre. En revanche, plus on est développé, plus on émet de gaz à effet de serre et plus on crée de nouveaux dangers qui sont des dangers vitaux pour l'ensemble de la planète, pour l'ensemble de l'humanité.
Alors, deux hommes débattent de ces questions homothétiques ou pas, justement, du développement durable et de notre société. Colin Cardy, il faut peut-être expliquer aussi que parmi les paramètres nouveaux, le développement de l'histoire du genre en tant que façon de d'envisager, pourrait-on dire, nos sociétés, mais également le développement d'un second, une seconde vague du féminisme depuis les années 1970, dont on vient de parler avec cette archive d'Alfred Sauvy. Tout cela a changé aussi la donne, puisque des féministes se sont posé la question de savoir s'il fallait faire des enfants, pourquoi c'était sur leurs épaules que reposait justement l'avenir de l'humanité. Et tout cela a donné lieu à des réponses différenciées, pourrait-on dire.
Tout à fait. Effectivement, la question s'est posée au niveau étatique, mais elle s'est posée aussi au niveau militant, c'est-à-dire au fond, est-ce que devenir mère et c'est pas aussi une forme d'aliénation? Et ça a été par exemple la réponse des matérialistes qui ont dénoncé le pouvoir de l'État sur les femmes.
Qu'est-ce que vous appelez les féministes matérialistes? Il faut peut-être préciser.
C'est celles qui vont appliquer à la classe des femmes la même analyse que Marx applique à la classe ouvrière. Mmh. Donc l'idée d'une division sexuelle du travail dans laquelle les femmes en fait prennent en charge très largement les tâches domestiques et parentales. Et donc, dès les années 70, hein, il y a des discours très, très forts pour dire, au fond, la maternité est une aliénation, il faut qu'on sorte de cette place qui est une injonction.
Avec, en particulier, des discours sur le désir maternel qui ne serait pas naturel, mais qui serait un désir.
Absolument.
Construit.
Voilà, avec cette idée que la maternité est sociale et que la maternité est politique, est construite politiquement. Mais il me semble que le débat qu'on a aujourd'hui est intéressant parce qu'au fond, il vient déconstruire cette notion qui est très contemporaine, une rhétorique très contemporaine, qui est celle du désir d'enfant. Et que les féministes ont parfois elles-mêmes critiqué hein, de façon importante. C'est-à-dire, au fond, et si je reprends les termes de chacun, ce désir d'enfant, il est schématiquement un phénomène qu'on peut relier à différentes choses, à la privatisation de la famille. L'idée qu'au fond, la famille, c'est un choix individuel, qu'aujourd'hui, l'État n'interviendrait plus dans les familles, alors que c'est assez faux, en fait. Il y a des formes renouvelées d'intervention. À une idée qu'on peut maîtriser la procréation. Et donc, cette idée que la parentalité, mais en fait, la maternité, n'est plus une chose subie, mais une chose choisie. Hein, il me semble que le débat se pose effectivement en ces termes, avec une forme de planification familiale des naissances, du moment où on va faire des enfants, du nombre d'enfants qu'on décide de faire.
Exemple, quand on parle du retard, justement, ce qu'on appelle le retard, entre guillemets, à la naissance dans une famille, on passait de 24 ans, il y a une vingtaine d'années, en moyenne pour une maternité, à 30 et quelques années aujourd'hui.
Aujourd'hui, oui, on fait des enfants évidemment de plus en plus tard. Et puis une psychologisation aussi très forte avec cette idée qu'au fond, désirer un enfant, ce serait avant tout une question psychologique qui se pose. Et il me semble que le débat aujourd'hui, qui est ancien, et vous l'avez rappelé, c'est important, que derrière cette rhétorique du désir d'enfant, au fond, ce que permet de révéler ces débats, aussi bien que concernant les questions environnementales que la question des retraites, c'est de montrer à quel point la naissance et la famille, c'est une affaire collective, c'est une affaire d'État, et à quel point on pense encore aujourd'hui très fort, au fond, l'ordre social sur l'ordre familial, dans les deux cas, avec des injonctions qui vont peser très différemment sur les hommes et sur les femmes.
Parce que, par exemple, on considère souvent que des femmes qui ne sont pas mères sont perçues comme égoïstes, malades ou dérangées.
Absolument.
Et on ne prend pas en compte, par exemple, le travail d'une sociologue comme Orna Donat, il y a quelques années, qui réfléchissait à cette idée qu'on pouvait regretter d'avoir été mère, par exemple.
Tout à fait.
Et tout cela, qu'est-ce que vous en pensez, Gérard-François Dumont, vous qui dirigez la revue Population et Avenir, et qui pensez qu'il faut plus d'enfants dans nos sociétés?
Non, il faut un choix libre, j'insiste. Mais effectivement, c'est une affaire collective pour une raison bien simple. C'est que la science de la population, la démographie, n'existe que parce que les comportements individuels s'inscrivent dans des logiques collectives. Et effectivement, quand deux personnes, par exemple, décident de se marier, ils pensent qu'ils ont pris la décision tout seul dans leur coin et ensemble à deux. Et en réalité, ils l'ont pris dans un contexte sociétal.
Et donc vous rejoignez certaines des critiques des féministes, justement, sur le fait
que... Et de même, quand un couple décide d'avoir un enfant ou de ne pas en avoir, il le prend dans un contexte sociétal. C'est pour ça que les taux de natalité, en fait, résument le contexte sociétal d'un moment à une certaine période dans un contexte politique qui est celui-là. En revanche, il est important, parce que nous avons beaucoup parlé des problèmes d'environnement, il est important d'insister sur le fait que l'environnement a besoin de personnes qualifiées pour s'en occuper. Je donne qu'un exemple. Quelle est la plus grande forêt d'Europe ? C'est la forêt des Landes. Elle a été construite par l'homme. Autre exemple, je voudrais vous parler de la forêt de Fontainebleau, où il y a des parcelles qu'on a cessé d'entretenir depuis un siècle et demi. Résultat, les chênes de Colbert, ils ont totalement disparu.
Oui, alors ça, ce sont des questions environnementales qui nous éloignent un tout petit peu de notre question. Mais puisque vous évoquez effectivement la pression sociale sur les couples pour avoir des enfants, on peut lire votre avant-propos, Antoine Bueno, dans Permis de procréer. Vous dites « Avec ma compagne, nous avons cédé à notre désir tout en sachant qu'il était égoïste. Je ne vois donc aucune raison d'être fier de ce choix, c'est-à-dire d'avoir un deuxième enfant et de vous arrêter à deux enfants. »
Oui, alors déjà pour moi c'est assez important de m'arrêter à deux enfants, ne serait-ce que pour pas passer le seuil fatidique, et Monsieur Dumont sourit, il a raison, des 2,1 enfants de renouvellement, donc des générations en France, donc l'honneur est sauf et surtout la cohérence avec mon propre propos. Je veux rebondir quand même sur ce qui vient d'être dit, il faut des gens qualifiés pour s'occuper de la nature. On va tout de suite rassurer Monsieur Dumont, hein. On risque d'être 9,5 milliards en 2050, 11,2 milliards en 2100, même si on n'était que 4 milliards, sur les 4 milliards, il y aurait des gens très compétents pour s'occuper de la nature.
Oui, et non, malheureusement, justement.
Ah, pourquoi ? Il faut qu'on soit nombreux pour avoir des gens compétents.
Et non, mais dans les territoires du monde qui sont mal entretenus, c'est là où on a les plus grosses difficultés d'environnement.
Mais parce que l'important, c'est le développement.
Et il faudrait insister aussi sur les chiffres que vous avez évoqués. Parce que souvent, effectivement, on croit que si la population mondiale a augmenté, continue d'augmenter, même si c'est un rythme très, très ralenti par rapport aux décennies précédentes, c'est à cause de la natalité. Absolument pas. C'est à cause de la mortalité. Ce sont les gains dans la baisse des mortalités, de la mortalité infantile, de la mortalité maternelle, de la mortalité infanto-adolescente qui expliquent l'augmentation de la population du monde.
Et donc, comme on ne va pas tuer les gens, il faut faire moins de naissances. Non. Et je rebondis sur quelque chose de très important que vous avez dit, je suis totalement d'accord avec vous, c'est le libre choix. Vous avez beaucoup insisté sur le libre choix, et je parle sous le contrôle de Madame Cardi. Aujourd'hui, il y a 225 millions de femmes dans le monde qui déclarent que leur besoin de contraception, de planning familial n'est pas satisfait. Le libre choix, il va donc dans le sens de la dénatalité, de la décroissance démographique et donc de l'environnement.
Et le libre choix, Colin Cardi, ça peut être aussi d'avoir plus d'enfants que ce que voudrait justement la société. Ça peut être aussi ça, le
Tout
libre
à fait.
Choix.
C'est-à-dire qu'au fond, aux deux pôles, on a, d'un point de vue normatif, à la fois celles qui ne font pas d'enfants, elles sont à peu près 10%, qui vont être considérées, c'est ce qu'a montré Charlotte de Best, comme déviantes, et puis de l'autre, et là on a souvent des formes de racialisation et des rapports sociaux de classe qui jouent très fort, il va y avoir aussi une stigmatisation de celles qui font beaucoup d'enfants.
Trop d'enfants.
Ouais, trop d'enfants.
C'est comme ça qu'on...
Et donc, c'est intéressant parce que la norme procréative, alors, elle s'est modifiée, on pourra y revenir, mais en fait, elle va se rejouer autour d'un modèle hétéronormatif. Et aux deux pôles de cette déviance, on a cette idée-là qu'une femme doit se réaliser dans la maternité, mais que pour autant, elle doit maîtriser sa contraception, sa procréation, etc. Et là encore, le choix pèse pour l'essentiel, sur les femmes.
Sans compter qu'effectivement, avec la PMA, avec tout un tas de nouveautés, pourrait-on dire, dans une société comme la nôtre, eh bien, il y a d'autres possibilités qui sont possibles, et vous ouvrez un article sur le genre, justement, sur la lecture de ce corps maternel, en disant, mais pourquoi pas des pères qui allaiteraient.
Absolument, c'est comme
possible.
Ça qu'on ouvre l'article, en disant, au fond... Non, mais si on, parce que la science peut aller très loin, mais la science, elle est aussi très genrée. Est-ce qu'il faut aller vers ça? Mais en tout cas, la science-fiction peut nous laisser imaginer qu'effectivement, des pères, parce qu'ils ont un certain nombre d'hormones, pourraient allaiter, ou on peut imaginer des utérus artificiels. En tout cas, d'un point de vue fictionnel, tout est possible d'une certaine manière.
Henri Atlan, par exemple, pour les utérus artificiels, il y a déjà pensé il y a un peu plus de 10 ans.
Vous ne savez pas écrire, vous ne savez pas lire, vous savez tout et bien pire, mais vous ne pouvez le dire. Moi, ce que j'avais compris, le rêve n'est pas fini quand le rêve est ça. Ce que tu vois, je ne sais pas. Ce que je vois, ça met en joie. Tu dessines des bonhommes et toi, tu colles ton chewing-gum sur ma tête. Arrête. Arrête.
Mais qui est France Culture, le temps du débat, Emmanuel Laurentin.
Et le rire des enfants dans cet extrait de Bonhomme, la chanson de Philippe Catherine. Antoine Bueno, il faut peut-être lever une hypothèque. Vous n'êtes pas pour, disons, un malthusianisme acharné. Ah, vous n'êtes pas par l'obligation dans votre permis de procréer d'empêcher les gens d'avoir des enfants. Comment avez-vous conçu ce système, qui est un système assez complet, puisque vous répondez à de nombreuses questions qu'on peut se poser à propos de cette question d'avoir ou pas des enfants dans notre société contemporaine. Comment l'avez-vous vu conçu justement dans votre façon de voir toutes les questions qui pouvaient être posées par une telle attitude?
Alors c'est assez simple, moi je suis un flexitarien de la procréation. Les flexitariens, ils nous expliquent qu'on peut continuer de manger de la viande mais en changeant notre rapport à la viande. Ils nous disent pas arrêter tout, il y en a qui disent ça, hein, mais c'est pas le cas des flexitariens. Donc moi je suis un flexitarien de la procréation, donc je dis pas qu'il faut arrêter d'avoir des enfants, ça serait totalement absurde, mais changer notre rapport, et quand je parle de changer notre rapport, c'est plutôt du côté des pays développés, de l'Occident, du Nord, et c'est pour ça que je propose un contrat de parentalité qui consisterait très simplement à customiser, c'est-à-dire à personnaliser la politique familiale, à accorder des avantages de politique familiale dans des contextes analysés précis en fonction des besoins réels des projets parentaux, mais couper tout le reste, potentiellement évolutif, oui, tout à fait, potentiellement évolutif, mais couper tout le reste, et je rebondis d'ailleurs aussi, je reprends ce qu'a dit Monsieur Dumont, on a peut-être raboté un peu la politique familiale, mais enfin aujourd'hui, il faut tout de même rappeler quelques chiffres. En France, le quotient familial, c'est 15 milliards, et les allocations familiales, c'est 56 milliards. Si on additionne les deux, ça fait 25% du budget de la France.
Je me permets quand même de rappeler qu'effectivement, on réduit le nombre de places en crèche, et que pour le coup, ça a des incidences très fortes sur la carrière des femmes et sur l'égalité entre les hommes et les femmes.
Antoine Bueno?
Non, mais d'ailleurs, vous pouvez pas dire que le quotient familial coûte de l'argent, tout simplement, parce qu'il faut quand même revenir à la déclaration des droits de l'homme, c'est-à-dire les gens doivent payer des impôts en fonction de leur capacité contributive, hein, c'est 1789.
Oui. Bon, Monsieur Dumont, on va dire que les niches fiscales ne coûtent pas d'argent.
Non, mais ce qui est gênant dans ce que vous venez de dire, c'est que vous avez utilisé le mot avantage. Comme si la politique familiale était un avantage. Donc, quand on crée une crèche, il y a un avantage. Alors qu'en fait, la politique familiale, c'est pour assurer la solidarité entre les générations. C'est tout à fait essentiel. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des couples qui, à un moment donné, sont en train d'élever des enfants. Et la société dit, faut les aider à ce moment-là. Et puis, quand leurs enfants seront élevés ou avant qu'ils aient des enfants, eh ben, c'est eux qui aident les autres. C'est la solidarité intergénérationnelle. Il faut rappeler quand même qu'au plan mondial, le nombre d'enfants par femme en 1950 était de 5. Donc, en moyenne, dans le monde, en 1950, une femme avait 5 enfants. Aujourd'hui, nous sommes à 2,5 enfants par femme. C'est-à-dire, clairement, la transition démographique a considérablement avancé. Et, en même temps, l'espérance de vie a énormément augmenté. Prenons un exemple simple.
Mais on pourrait en être heureux, justement, de cette baisse du nombre d'enfants par femme, parce qu'on pourrait se dire, tout compte fait, qu'il y a 40 ans, le Club de Rome et d'autres va faire exploser...
D'ailleurs, la bonne nouvelle, c'est que pourquoi elle a baissé? Eh bien, elle a baissé la fécondité, justement, parce que la mortalité a baissé. C'est-à-dire que les couples ont compris que le taux de survie de leur nouveau-né devenait beaucoup plus important. Et donc, ils ont compris qu'il était plus nécessaire d'avoir 5 enfants par femme.
Antoine Bueno, je voudrais dire quelque chose qui, à mes yeux, est fondamental. La question, c'est absolument pas est-ce que on va décroître démographiquement, est-ce que la population va se stabiliser puis décroître. Ça, on le sait, tout le monde est d'accord. La question, c'est pas ça. La question, c'est à quel niveau ça va se stabiliser et est-ce que ça sera trop tard? Et la réponse à ces questions, c'est extrêmement simple, puisqu'on le sait, les prévisions de l'ONU sont extrêmement fiables depuis au moins 1950. Ça va se stabiliser à 11,2 milliards au tournant du 21e siècle et on utilise déjà aujourd'hui à moins de 8 milliards à peu près une à deux fois les ressources de la planète. Donc on est déjà trop nombreux.
Colin Cardy, est-ce que vous vous placez dans ce débat tel que le font donc à la fois Gérard-François Dumont et Antoine Bueno?
Pas précisément, c'est-à-dire que je suis assez sensible aux questions environnementales. Après, je m'interroge sur ce modèle-là, c'est-à-dire au fond, l'état social qui est nataliste et qui est extrêmement genrée et qui accorde une place très différente aux hommes et aux femmes et aujourd'hui aux pères et aux mères avec des formes de psychologisation de ces rôles-là, voilà, est critiquable. En tout cas, en tant que sociologue, on peut essayer de comprendre effectivement comment il fonctionne sur un système de genre très très fort qui assigne les femmes aux tâches domestiques. Je m'interroge sur la manière dont le souci de l'environnement et quelle société, en termes de rapports sociaux de sexe, on cherche à créer quand on s'interroge. Et il y a aussi des écoféministes qui n'ont pas le même regard que vous autour de la question de la naissance.
Alors on peut écouter par exemple Yves Cochet, l'ancien ministre de l'Environnement et président de l'Institut Momentum, dans l'émission Clic, c'était un dimanche sur Canal+, en octobre 2018.
La solution concrète, oui, c'est une politique, on peut dire, de modération nataliste. One is good, two is enough, c'est pas plus de deux, parce que c'est très sensible. Tout de suite, et même assez vite, vous êtes traité d'eugéniste, voire de nazi. En disant quoi, vous voulez limiter les naissances, qu'est-ce que c'est que ça? Donc il faut faire très attention et avoir un discours le plus raisonnable, mais en même temps sensible, parce que c'est pas simplement est-ce que je vais acheter des fraises ou pas, hein, c'est quelque chose qui touche les tripes. Moi je propose qu'il y ait une inversion de l'échelle des allocations familiales. Au premier enfant, on peut en avoir des allocs, par exemple, je sais pas, 120 euros hein, pour un enfant, et puis au deuxième, un petit peu moins, et au troisième, c'est fini.
Ça vous fait peur, Gérard-François Dumont, une telle proposition?
Ça me fait pas peur. Hein. Ce qui m'ennuie plutôt, c'est la mécompréhension des mécanismes démographiques, si vous voulez. Si effectivement, très probablement, on va arriver à 8 milliards, c'est tout simplement parce que l'espérance de vie a augmenté. Prenons un exemple simple. L'espérance de vie des femmes est supérieure à celle des hommes. Si demain matin, l'espérance de vie des femmes...
On en est à 85 années pour les femmes en France et voilà. À 79 années pour les hommes, voilà. À peu près.
Et si demain matin, l'espérance de vie des femmes se mettait au niveau de celle des hommes, c'est-à-dire en fait perdait plusieurs années d'espérance de vie, le nombre d'habitants diminuerait. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément qui me paraît essentiel, c'est que le nombre d'habitants sur Terre n'a aucune importance. Et d'ailleurs, Alfred Sauvy le disait tout à l'heure, dans son discours de 1974.
Oui, mais on a changé entre...
Non, ce qui compte... C'est là, sur les territoires différents, quelle population on a, quelle répartition par âge on a, etc. C'est ce qui compte. La réalité démographique, elle est locale. Additionner la population du Laos et de la Finlande pour calculer la population mondiale, ça ne veut rien dire, parce qu'elles sont totalement différentes.
Oui, Antoine Bueno, vous n'êtes pas d'accord.
Alors là, moi je m'inscris totalement en faux. D'un point de vue environnemental, le poids d'une population, c'est très simple. C'est le poids individuel multiplié par le nombre qu'on est. Donc aujourd'hui, si on pouvait, par un coup de baguette magique, changer complètement notre mode de vie, notre mode économique, notre mode de consommation, ah oui, on pourrait largement continuer d'être 8 milliards, 9 milliards, 10 milliards, et puis hop, allons-y, pourquoi pas 20, 30, 50 milliards. Sauf qu'on ne peut pas. Ça fait des décennies qu'on sait qu'on ravage la planète, que la biodiversité s'effondre, que les températures augmentent, et que, alors qu'on devrait diminuer nos gaz à effet de serre, ils ne cessent d'augmenter de 1% chaque année. Ils devraient diminuer depuis 15 ans de 2%. Donc, on n'arrive pas du tout à modifier ce schéma économique. Moralité, il n'y a plus qu'un seul levier, c'est celui du nombre.
Alors tout de même, qu'est-ce qui pèse sur les épaules des femmes? C'est soit le suicide démographique, au maximum, soit le suicide écologique. C'est-à-dire, en fait, vous avez quand même beaucoup de responsabilités, Colline Cardier, toutes les femmes.
Absolument. Hein, c'est effectivement, mais c'est une vieille question, hein, c'est que c'est effectivement les femmes qui font l'ordre social. C'est-à-dire, on leur demande effectivement de gérer ces questions-là qui sont hautement politiques. Et je continue à me poser la question du moment, et vous n'y avez pas répondu, c'est-à-dire au fond où la critique féministe va pouvoir rejoindre, et elle le rejoint dans plein d'espaces, la critique écologique. Et du coup, est-ce que c'est effectivement et vraiment autour de cette question de dire combien il faut faire d'enfants?
Je réponds tout de suite. Le principal levier de décroissance démographique aujourd'hui, ce sont les droits des femmes, par deux canaux qui sont extrêmement bien connus. Et moi, je propose un système pour les financer. C'est d'une part, on en a parlé brièvement, le planning familial, c'est-à-dire la contraception. Encore une fois, 225 millions de femmes dans le monde qui disent ne pas avoir les moyens de maîtriser leur contraception, et ça donne 80 millions de grossesses par an non désirées, alors qu'il faut savoir que la population mondiale augmente justement de 80 millions de personnes par an. Ça, c'est le premier levier, donc le planning familial. Et le second levier, bien sûr, c'est l'éducation des filles. l'éducation des filles, puisqu'il y a énormément de petites filles qui sont interdites d'école, et on sait qu'il y a un effet de levier colossal entre le niveau d'éducation des filles et le niveau de fécondité. On sait exactement combien ça coûterait pour le financer.
Politique des natalistes d'Antoine Bueno, politique nataliste de Gérard
François Dumont. Encore une fois, nous sommes d'accord sur un point et désaccord sur un autre. Nous sommes d'accord sur un point que l'alphabétisation des filles est absolument essentielle. En revanche, l'autre point qui est fondamental, c'est la santé des femmes. Ça, c'est tout à fait essentiel. C'est-à-dire, il faut effectivement que les femmes aient une meilleure santé, et en particulier quand elles souhaitent avoir un enfant, que les systèmes de protection maternelle et infantile soient considérablement développés. D'ailleurs, c'est l'écart considérable que l'on voit entre l'Algérie et la Tunisie. Ce qui s'est passé dans la Tunisie de Bourguiba, c'est que Bourguiba a investi massivement sur la protection maternelle et infantile. Et du coup, effectivement, la fécondité a baissé, la transition démographique a été rapide. Ce que l'Algérie est effectivement, n'a pas fait. Quant au problème d'environnement, prenons deux chiffres. La Suisse et le Luxembourg. Les émissions de CO2 par habitant en Suisse sont 4 fois moins élevées qu'au Luxembourg, dans un pays donc qui a une très forte densité, surtout par rapport à ces terres arables. Donc les problèmes d'environnement, ils sont liés à la qualité de gestion et à la qualité de gouvernance des pays et des territoires.
Alors on sait, pour avoir lu les bons travaux d'Yvan Jablonquin sur les pupilles de la nation pendant la Révolution française, on sait, Antoine Bueno, combien on est, disons... La question de la natalité, de la protection des enfants, de la protection des mères, est quelque chose qui tient à la société. Vous voulez un contrôle social des naissances. Qu'est-ce que le contrôle social des naissances, selon vous? C'est-à-dire avec la possibilité, comme on l'a fait pour les questions des pupilles de la nation, ou pour comme on l'a fait pour les enfants à protéger, de faire des enquêtes sur les familles, de savoir si elles sont capables d'avoir des enfants, de les élever, dans quelles conditions faut-il justement autoriser ces familles, et pas simplement les femmes en l'occurrence, mais ces couples, à avoir des enfants.
Alors déjà, le mot autoriser est extrêmement important, puisque en aucun cas je ne propose d'autoriser ou donc d'interdire
bien
à quiconque d'avoir des enfants.
Ça n'est pas une autorisation. Alors, vous proposez ça, c'est simplement de discuter.
C'est-à-dire, c'est encore une fois une individualisation de la politique familiale. Et d'ailleurs, je reviens. Là, vous m'avez eu sur les places en crèche, donc je vais répondre. qu'on répartisse cette extraordinaire manne de 56 milliards d'euros plus 15 milliards d'euros autrement pour faire plus de places en crèche et moins d'allocations familiale, parce qu'il faut savoir que quand on est très riche, les enfants Bettencourt, Madame Bettencourt, pour ses enfants, elle touche pas beaucoup. Ça change
non,
pas
sa
vie.
Elle ne touche plus.
C'est totalement.
Par contre, elle continue à toucher l'allocation personnalisée à l'autonomie.
Monsieur Dumont, elle ne touche plus, vous voulez dire, parce qu'elle n'a plus d'enfants.
Si elle avait des enfants aujourd'hui, il y a une grande injustice.
Je vous l'apprends. Je vous l'apprends. Si elle touche 38,56 euros par mois, je le sais, puisque moi-même, je suis dans sa tranche de revenus, même si je ne suis pas multimilliardaire, je touche 38 euros, ça ne change rien pour moi, mais d'un point de vue symbolique, ça me choque, évidemment, ça me choque de toucher ça. Donc, autrement dit, c'est remettre totalement à plat l'ensemble de ces politiques, voir quels sont les projets parentaux qui ont des besoins. J'ai un besoin, par exemple, en logement, j'ai un besoin d'avoir une aide financière, effectivement, j'ai un besoin en aide ménagère, en travail, tout ce qu'on peut imaginer, et on l'accorde si, véritablement, il y a des besoins qui se font jour. Pour le reste, pas la peine. Et le fait de signer un contrat de parentalité, ça change son rapport à la procréation. Et ça permet, puisque c'était en filigrane votre question, de détecter les cas de maltraitance infantile. Parce que dans les hypothèses où les obligations du contrat de parentalité ne sont pas remplies, eh ben ça crée, pardonnez-moi de l'anglicisme, un red flag. C'est-à-dire tout d'un coup une alerte, exactement comme aujourd'hui on a des alertes pour des enfants qui sont maltraités, mais on les a beaucoup trop tard quand les enfants sont à l'école à l'âge de 3 ans. Là, ça permettrait en amont d'avoir une détection de la maltraitance infantile.
Colin Cardy.
Non, je voudrais dire deux choses. D'abord que ce que vous partagez l'un et l'autre, c'est quand même une vision du féminisme qui est un peu réductrice, c'est-à-dire dans un cas comme dans l'autre, au fond, il faut éduquer les petites filles et permettre aux femmes d'avoir accès, et c'est évident ça, d'avoir accès à la contraception. Pour autant, ça suffit pas à faire une politique égalitaire, ni dans un sens, ni dans l'autre. C'est encore une fois l'idée que c'est effectivement aux petites filles qui seront les femmes de demain, de gérer leur sexualité, de prendre en charge cette question de la naissance, et ça me semble problématique. C'est-à-dire que là où s'articule la question écologique et la question féministe, c'est un peu plus complexe, et c'est autour d'autres formes de solidarité sociale. Ensuite, sur cette question du contrat de parentalité, il faut quand même imaginer que les, enfin là il y a aussi quelque chose où vous vous rejoignez, enfin où il y a des choses communes, c'est-à-dire que la politique nataliste, elle s'est accompagnée en France d'une forme de protection des mères, mais surtout des enfants, et que pour le coup on surveille, notamment quand on est une femme issue des milieux populaires, de très près la relation mère-enfant, et que au fond on a déjà une société qui de manière très très forte agit sur la question de la naissance et des premiers mois de l'enfant, etc. Et donc, est-ce que c'est par ce biais-là qu'on va aussi gérer la question environnementale? Je sais pas. C'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, on a tout un arsenal de l'État social qui est là aussi pour regarder ce qui se passe dans cet espace-là avec une stigmatisation très forte, souvent des mères.
Antoine Bueno et puis Jean-François Dumont.
La démographie, c'est un instrument fondamental de défense de l'environnement. Mais c'est pas le seul. Évidemment, il faut aussi mener une transition énergétique, une transition environnementale de nature technologique et économique. C'est complémentaire.
Oui, non, je crois que nous n'avons pas été bien compris tout à l'heure. En fait, le problème dans le monde aujourd'hui, c'est que le taux de scolarisation des filles est beaucoup plus bas que celui des garçons. Et ça, c'est une forte injustice à laquelle il faut absolument remédier. Donc ça me paraît tout à fait essentiel, si vous voulez, de rétablir cette égalité absolument fondamentale. Et aujourd'hui, effectivement, dans beaucoup de pays, les femmes sont en situation de seconde zone dans tous les domaines. Prenez par exemple l'Arabie Saoudite, vous rendez compte que les taux d'obésité féminins sont de 44% de la population féminine, compte tenu des conditions qui sont faites aux femmes. Donc ça, c'est aussi scandaleux. Donc, pour moi, alors, quant au problème des contrats de parentalité, je dirais qu'en fait, ils existent déjà. Alors, on a changé les noms, parce qu'en France, on adore changer les noms. Mais au début des années 40, on avait créé ce qu'on appelait les allocations prénatales. Mmh. L'allocation prénatale, ça voulait dire quoi? Ça voulait dire que l'État, effectivement, versait des allocations à une future mère avant la naissance de l'enfant, et en contrepartie, l'État avait l'assurance que cette mère allait bien avoir un suivi médical. Et c'était d'autant plus essentiel qu'on était dans une période où il y avait beaucoup de maris qui n'acceptaient pas que leur femme aille voir un médecin. On oublie ceci qui est fondamental. C'est pour ça que les allocations prénatales a permis de développer le niveau, la qualité, le niveau sanitaire des femmes.
Ça n'est pas exactement ce
que
vous proposez.
C'est absolument pas ce que je propose. Hein. Je reprends pas de politique nataliste familiale vichiste. Hein. C'est vraiment avoir un package d'aide.
C'est pas Vichy, excusez-moi. C'est la Troisième République et c'est le Front Populaire.
Ah, qui a créé parce que vous avez dit au début des années 40.
Oui, excusez-moi, j'ai fait un lapsus.
C'est pour ça.
1940, ça n'était pas.
Non, nonobstant, c'est pas du tout ce que je propose. Moi, ce que je propose, c'est qu'il y ait effectivement des aides quand il y a de véritables besoins et pas d'aide autrement, tout simplement. C'est-à-dire vraiment individualisé.
Est-ce que vous pensez, Colin Cardy, que ces questions qui sont débattues ici autour d'une table à l'occasion de ce rapport de l'INSEE qu'on a eu il y a maintenant une quinzaine de jours, ces questions mériteraient d'être plus largement encore partagées dans la société, justement en réintégrant toutes ces questions environnementales, genre, place des hommes et des femmes dans la société, pour pouvoir mieux en débattre et peut-être inventer de nouvelles politiques natalistes ou des natalistes s'il en faut.
Ouais, ou des nouvelles formes d'éducation. C'est-à-dire qu'au fond, si on essaye de penser aussi les choses en dehors de la bicatégorisation de sexe, on peut aussi penser à des formes d'éducation collective qui seraient aussi une nouvelle voie pour essayer de penser la chose en dehors de la famille biologique telle que et les politiques natalistes et la manière dont le débat environnemental est posé ce soir repose en fait.
Et cela, effectivement, ce sont des questions que beaucoup de féministes et d'historiennes du genre ont reposées justement en regardant en arrière dans d'autres sociétés ou dans notre société il y a maintenant un siècle ou deux, et en particulier autour de la question de la Révolution française. On peut lire Lynn Hunt ou d'autres chercheuses de ce type qui ont beaucoup travaillé sur ces questions-là. Je vous remercie tous les trois d'avoir débattu de cette question qui était la question du jour dans le temps du débat, faire plus d'enfants ou ne plus faire d'enfants. Antoine Bueno, votre livre s'intitule Permis de procréer, il est publié chez Albin Michel. Quant à votre revue, Gérard François Dumont, fondée par Alfred Sauvy, elle s'intitule Population et Avenir et son dernier numéro traite de la question des migrations internationales, une réalité plurielle. Et puis on peut conseiller la lecture de l'ensemble de cette encyclopédie du genre à laquelle vous avez participé. C'est un moment très riche de remise en question de beaucoup de choses que l'on croyait savoir. Cette encyclopédie du genre, c'était publié à La Découverte, Colin Cardy. Merci encore.
Merci, Sylvie.
C'était Le Temps du Débat. Chloé Cambrelin, Fanny Richer, Rémi Bas, Hugo Boursier et Louise André, que nous remercions particulièrement parce qu'elle a été là avec nous pendant 6 mois depuis la création du Temps du Débat et que sa famille est d'ailleurs dans le studio. Nous la remercions. Elle sera là encore pendant quelques jours et merci encore à Louise André. Ludovic Cogé était à la technique aujourd'hui avec nous. Assia Khalid était à la réalisation. Demain, eh bien, nous intéresserons au pouvoir public. Sont-ils encore solidaires des associations à propos de cette journée ou de cette nuit de la solidarité qu'il va y avoir à la fois à Paris et à Berlin autour des SDF.